journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. SOS Méditerranée, associé à MSF, reprend la mer et sa mission, sauver des vies au large. Cependant que l'Union européenne échoue à sceller un mécanisme de solidarité, explication de Thomas Larabi. Nouvelle et massive mobilisation contre l'exécutif à Hong Kong, correspondance de Florence de Changy. Les élections législatives en Ukraine et un tandem en vue pour dominer le Parlement. Le comédien et président Volodymyr Zelensky fera-t-il alliance avec la star de rock et patriote Zatoslav Zakarchuk? Également au sommaire, Eva Thunberg, lauréate du prix Liberté de la région Normandie. Eva Thunberg, militante et pédagogue hors pair, plébiscitée par des lycéens français et bien au-delà. SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières veulent de nouveau au secours des réfugiés qui se noient en Méditerranée. Un peu plus d'un semestre, il aura fallu à ces humanitaires un peu plus d'un semestre pour être de nouveau opérationnels après la fermeture des ports italiens et une intense campagne de dénigrement. Les chefs d'État et de gouvernement, on le sait, sont divisés. Je parle bien sûr de ceux des 28 de l'Union européenne face à ce constat. Deux ONG. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour.
On les a cités, ces ONG. Thomas, ces deux ONG ont affrété un nouveau navire pour secourir les migrants en détresse.
Oui, 7 mois après l'immobilisation de l'Aquarius privé de pavillon, MSF et SOS Méditerranée annoncent l'Ocean Viking, un bâtiment de 69 mètres qui vogue actuellement vers la Méditerranée centrale. Selon l'ONG, près de 350 migrants sont morts noyés depuis le début de l'année en Méditerranée. Les 3 années précédentes, l'Aquarius avait porté secours à pas moins de 30 000 personnes. Sophie Rahal, bénévole à SOS Méditerranée, était sur l'Aquarius.
C'était devenu plus qu'une urgence de repartir en Méditerranée centrale avec un nouveau navire. L'Aquarius a fait l'objet de tellement d'attaques, qu'elles soient politiques, administratives ou judiciaires, que de toute façon c'était un outil qu'on pouvait plus utiliser, qui était plus du tout adapté. Il faut qu'il y ait des navires présents en Méditerranée centrale parce que sur cette zone, les gens continuent de traverser, continuent de mourir. Et l'absence de navires humanitaires n'a rien réglé. Au contraire, les gens continuent de tenter la traversée, mais ils meurent. Donc nous, on repart. On risque effectivement de se retrouver dans des situations compliqué au moment où, après un sauvetage, on demandera l'accès à un lieu sûr pour débarquer les survivants. Ce genre de situation risque en effet de se reproduire.
D'autant que les pays européens peinent toujours à s'entendre. On l'a vu encore le mois dernier avec l'épisode du Sea-Watch 3, ce navire allemand qui a dû errer 2 semaines en mer avec 40 migrants à son bord, car aucun port ne voulait les accueillir. Alors plusieurs nations ont tapé du poing sur la table. Un texte porté par la France et l'Allemagne sera étudié demain à Paris par les ministres de l'Intérieur européens. Il doit instaurer un mécanisme de solidarité entre pays pour que la charge ne reviennent pas qu'aux nations côtières en première ligne. Ce texte doit permettre un débarquement et une répartition rapide des migrants dans plusieurs pays et avec, dans le sens inverse, une procédure accélérée de retour pour ceux qui ne peuvent prétendre au statut de réfugiés. La France et l'Allemagne espèrent convaincre quelques pays volontaires dans un monde idéal, une quinzaine, avec Malte et l'Italie, et ce, malgré les prises de position tranchées du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Les choix faits à Paris et à Berlin, ça suffit. L'Italie n'est plus disposée à accepter tous les migrants qui arrivent en Europe. C'est ce qu'a écrit Matteo Salvini à Christophe Castaner ce dimanche.
Merci à vous Thomas Larabi. Hong Kong ne décolère pas par centaines de milliers. Les détracteurs du projet de loi qui offre aux autorités la possibilité d'extrader des justiciables en Chine communiste pour les juger, texte suspendu, manifestent encore et toujours jusqu'à affronter les forces de l'ordre, comme ce fut le cas le week-end dernier. Hier, la police hongkongaise affirmait avoir découvert une cache d'explosifs, de quoi ajouté à l'extrême fébrilité ambiante. Florence de Changy, au cœur de la mobilisation.
Oui, donc ça fait 2 ou 3 heures que la marche a commencé, à environ 3 kilomètres de là où je me trouve. On est à présent avec des milliers de marcheurs au-delà de la zone autorisée, puisqu'à l'origine, les organisateurs avaient demandé de terminer au pied de la statue de la justice, la centrale, qui est sur le parapet de la cour d'appel finale. Mais la police a refusé cette destination et les organisateurs ont fait appel, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Et donc, les marcheurs continuent malgré la non-autorisation de la police. Pour le moment, c'est comme toujours très pacifique, très calme. Par moments, on chante des slogans, mais c'est aussi silencieux. Une minorité de gens sont masqués. Les Hongkongais, toujours très organisés, ont leur patch de froid collé sur le front ou leur petit ventilateur à pile dans la main. Donc, ambiance très bon enfant pour le moment. La police absolument absente des rues, invisible. Mais c'est vrai quand même que tout le monde craint que cela tourne mal dans quelques heures. Selon des rumeurs, les services d'ordre auraient l'intention d'utiliser des canons à eau pour disperser la foule. Et il y a, semble-t-il, un certain nombre de manifestants qui pensent que, puisque ces marches pacifiques n'ont aucun effet, il va falloir passer à des actions plus musclées. Donc malgré la sérénité actuelle, il y a une certaine anxiété pour ce qui pourrait se passer dans les heures qui viennent.
Florence de Changi à Hong Kong, risque accru de terrorisme contre l'aviation. C'est ainsi que British Airways justifie la suspension et pour une semaine de ses vols pour le Caire. Même mesure prise hier par la compagnie allemande Lufthansa, 24 heures sans vol à destination du Caire et au départ de Munich et de Francfort sur le Main. La prime au vainqueur à la présidentielle, l'adage vaut en France comme en Ukraine. L'Ukraine aux urnes ce dimanche pour des législatives que devrait remporter le parti de Volodymyr Zelensky. Sera-t-il pour autant capable de gouverner seul au Parlement? Non, semblerait-il. Il envisage de s'allier, lui le comédien, l'humoriste, à une bête de scène de la scène rock, Sviatoslav Zakharchuk, pour un peu plus de crédibilité en matière de lutte contre la corruption. Claude Broyot est à Kiev.
Dans une ambiance de concert, parmi les centaines de fans soutien de Sviatoslav Zakharchuk, le Johnny Hallyday ukrainien, il y a Yaroslav, 27 ans, membre de l'ONG Transparence Internationale qui lutte contre la corruption, tête de liste numéro 7, car convaincu que son rocker préféré est plus crédible dans ce combat que le jeune président Zelensky.
En matière de lutte contre la corruption, Sviatoslav, qui est très patriote, a davantage de crédibilité. C'est quelqu'un qui n'a pas de liaison dangereuse avec les oligarques, à la différence de Zelensky, qui a des liens avec Igor Kolomoïski, le patron du groupe bancaire privat.
Mais l'inexpérience des candidats du parti lancé il y a quelques semaines seulement par le rocker ukrainien en dissuade aussi beaucoup d'autres, comme Sergueï, un jeune juriste de 26 ans.
D'un côté, j'y suis très content qu'il y ait de nouveaux visages qui arrivent. Et de l'autre côté, moi, j'ai un petit peu peur parce que je ne sais pas à quoi ils sont capables. Il n'y a pas des gens qui ont l'expérience et ça en génère la peur dans le sens où on n'a pas le droit à l'erreur parce que Poutine est à côté. Si on fait quelques erreurs politiques, je pense que ça peut empirer la situation.
Jamais très loin, la présence du grand voisin russe revient souvent dans les conversations à l'heure où l'Ukraine, 3 mois après avoir porté au pouvoir un homme de scène, s'apprête donc aujourd'hui à renouveler en grande partie sa représentation parlementaire, issue peu ou prou jusque-là de l'époque soviétique.
Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Greta Thunberg, attendue en Normandie en début d'après-midi pour y recevoir à Caen le premier prix Liberté de la région. Un prix décerné par des milliers de jeunes du monde entier. Une jeunesse qu'elle aura su sensibiliser à la préservation de l'environnement aux quatre coins de la planète. S'empresse d'ajouter Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.
Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'elle a réussi à lancer un mouvement qui va bien au-delà d'elle maintenant. C'est-à-dire que ce mouvement des jeunes qui se mettent en grève pour le climat a fait tache d'huile dans beaucoup, beaucoup de pays à travers la planète. Et pour le coup, ça dépasse largement le cadre de l'Europe. Mmh. Et c'est vrai que le jour où elle a décidé de se mettre en grève en Suède, comme elle l'a fait devant le Parlement, je pense qu'elle n'imaginait pas ce qu'elle allait lancer, ce qu'elle allait créer. Et rapidement, ça a pris en Australie, ça a pris dans différents pays européens, c'est venu en France ensuite. Et je crois qu'elle a réussi à lancer quelque chose que personne n'avait osé imaginer jusque-là. Donc il faut que ça se poursuive et maintenant il faut qu'elle arrive à convaincre les dirigeants du monde entier, les responsables politiques de passer à l'action réelle.
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, avec Matteo Maestracci. Puisse la jeunesse rompre avec ses comportements détestables, notamment sur les pentes du Mont-Blanc, actes d'incivilité, dégâts environnementaux sur fond de hausse de la fréquentation. À telle enseigne que les autorités ont décidé de sévir depuis le début de l'été, règles plus sévères pour accéder au sommet, application drastique des règles de sécurité et amende en cas de rébellion. Marjolaine Beau, c'est le cahier des charges de la Brigade Blanche.
Lutter contre les incivilités, garantir la sécurité, préserver l'environnement, c'est le rôle de la Brigade Blanche. À l'initiative du maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc, cette nouvelle unité doit permettre de contrôler l'accès au toit de l'Europe. Pour se rendre sur le Mont-Blanc, chaque personne devra désormais présenter sa réservation nominative dans l'un des refuges. Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais.
La Brigade Blanche, elle est venue compléter un dispositif qui a été mis en place il y a 5 ans, qui est la présence du peloton de gendarmerie de haute montagne, c'est-à-dire comme une douane volante. On les contrôle quand ils sortent du tramway du Mont-Blanc, on les contrôle sur l'accès au Mont-Blanc, il n'y a pas 19 routes. Puis là, les gens doivent montrer leur réservation, soit sous la forme numérique sur leur téléphone, soit sous la forme papier.
Camping sauvage, vol de chaussures, agression d'un guide. Ces derniers temps, les incidents graves se sont multipliés. Pour Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, il fallait une législation plus stricte.
C'était nécessaire qu'on mette en place des mesures de régulation. Ce n'est pas forcément lié à un nouveau public. En revanche, c'est lié à une pression commerciale beaucoup plus forte sur cet itinéraire. Avec la multiplication des agences qui commercialisent la voie normale du Mont-Blanc.
Jusqu'au 29 septembre prochain, seulement 260 personnes par jour pourront s'engager sur la voie royale et atteindre le sommet du Mont-Blanc.
Marjolaine Beau, quelques mots et quelques mots seulement de la météo de l'après-midi. Des averses sur le relief Alpes et Pyrénées. Au-delà, temps ensoleillé. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Alice Seyed.